Les capsules du patrimoine, bonjour. Les capsules de temps sont des objets enfouis dans la terre à destination des générations futures. Elles laissent une trace qui renseigne sur une époque. L'émission Les capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. Léa Gérardin-Macario, archéologue du bâti au service inventaire du patrimoine du PETR du Pays Midi-Quercy, va vous faire part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches lors de fouilles menées à Caylus en début de ce mois, réalisées en partenariat avec le service régional de l'archéologie et l'université Jean Jaurès de Toulouse.
Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les fouilles archéologiques qui sont en cours à Caylus, à la maison du 28 rue Droite, en face de la maison des loups, bien connue à Caylus dans la rue Droite. C'est une fouille qui est réalisée par le service de l'inventaire du patrimoine. C'est un peu une originalité puisque le service inventaire se dote maintenant de la compétence archéologique. Et peut réaliser maintenant des sondages et des analyses du bâti, des édifices anciens. Voilà. On est pour cette fois-ci en partenariat avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès, puisque à la Maison des Loups, c'est un étudiant en doctorat d'archéologie médiévale qui réalise le sondage dans le rez-de-chaussée de la Maison des Loups. Et on travaille tous les deux ensemble, chacun de notre côté de la rue, mais ensemble quand même pour échanger, comparer nos trouvailles et notre méthode d'investigation. Alors, nous voilà au rez-de-chaussée de la maison du 28 rue Droite, dans une partie du rez-de-chaussée qui n'est pas la partie qui donne sur la rue, qui est très ouverte avec des grandes baies de boutiques comme on a l'habitude de les voir dans les maisons médiévales, mais la partie arrière qui est semi-enterrée, qui est entre la cave et le rez-de-chaussée, qui est probablement un espace utilitaire, peut-être de stockage. Enfin, c'est l'une des questions qu'on se pose en travaillant ici, en fait, comprendre quelle est la fonction de cet espace, puisqu'il est semi-enterré, donc presque aveugle en partie, mais il a quand même du côté de l'église qui donne sur ce qu'on appelle le portail obscur à Caylus, qui est ce petit passage entre la façade de l'église et la maison, qui est couvert par une sorte de balcon ou de galerie. Mais on voit qu'au Moyen-Âge, c'était probablement ouvert quand même par une grande porte qui a un grand arc brisé comme les baies de boutique qu'on trouve sur la rue Droite. Mais on ne comprend pas très bien sa fonction à cette grande porte parce que elle est un petit peu avec le niveau de la rue, ça ne fonctionne pas bien. Enfin, y a une interrogation sur la fonction de cette porte et donc sur la fonction de cet espace. À quoi ça sert ici dans la maison, qui est une grande maison avec des grandes boutiques côté rue Droite? Est-ce qu'on pourrait envisager de ce côté-là un espace de stockage comme on le fait aujourd'hui dans les commerces, avec un commerce sur la rue principale et une arrière-boutique pour stocker diverses denrées qu'on va vendre ensuite sur la grande rue? Donc voilà la question principale. Les deux sondages, là il n'y en a qu'un seul qui est réalisé pour l'instant, il y en a un deuxième qui va débuter sous peu, sont motivés parce que le niveau de sol aujourd'hui il est en terre battue. Donc ça, pour nous, déjà, c'est un bon point de départ. Ça veut dire qu'il n'y a pas une dalle béton qui est venue tout casser pour installer un aménagement contemporain. Et en nettoyant ce sol en terre battue, les propriétaires ont mis au jour une pierre qui avait vaguement une forme circulaire, mais elle était toute éclatée sur le dessus. On voyait pas bien sa forme, mais on voyait que c'était pas une pierre lambda, quoi, on va dire. Elle nous étonnait, et son emplacement nous étonnait d'autant plus qu'elle est juste posée devant un gros pilier maçonnée. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est venue installer cette pierre qui a l'air circulaire devant un gros pilier? Donc ça, c'est le premier sondage qui a été réalisé en creusant. On ouvre en fait une sorte de carré de 80 cm de côté, grossièrement. Et là, l'objectif de l'archéologue, ça va être de comprendre si à cette pierre peut être associée un contexte d'occupation. Donc c'est-à-dire comprendre si elle est juste venue là dans des remblais pour faire monter le niveau du sol, ou si elle appartient à un aménagement type deuxième pilier ou support pour quelque chose voilà, à déterminer. Donc si elle était par exemple avec une base bien façonnée ou associée à un niveau de sol bien construit. Voilà, donc ça c'était la question principale. La réponse, puisque nous l'avons sous les yeux, ce sondage ouvert et terminé de fouiller, et il n'est pas en place. C'est-à-dire, quand on dit qu'il n'est pas en place, ça veut dire que cette pierre est installée, mais pas dans sa fonction première. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que cette pierre qu'on a dégagée là, ces deux jours de sondage, c'est ce qu'on appelle un tambour de colonne. Donc c'est les colonnes, on imagine, soit elles vont être faites d'un seul tenant, elles vont être monolithes, on dit dans ce cas-là, soit elles sont composées de tambours, donc des pierres successives, des blocs successifs qu'on pose les uns sur les autres. Là, c'est un tambour, donc il n'y en a qu'un seul bloc qui a une forme octogonale, donc des pans coupés. On imagine un carré avec les coins qui ont été coupés. Donc ça, c'est bien une forme de pilier. La taille a bien l'air d'être un pilier. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul tambour. Il n'y a pas de base associée. Et il repose sur une aire de mortier. C'est visiblement une phase de chantier. Un réaménagement dans la pièce. On a décidé d'installer ce gros bloc, on le réutilise parce qu'il est quand même massif, il est bien, c'est quand même de la bonne pierre qui est tout à fait réutilisable. Et donc on va le réutiliser à un moment, on a du mal à comprendre pourquoi, mais visiblement dans un moment, une phase de chantier de réhabilitation ou de changement d'utilisation de l'espace. Ce qui est par contre, très intéressant pour nous, c'est que sous ce tambour de piliers, on trouve là un sol appareillé, donc des grands moellons rectangulaires, allongés, qui sont posés les uns à côté des autres de manière assez régulière. Bon, on n'en voit pas beaucoup, hein, parce que la fenêtre n'est pas très grande, mais on imagine, en tout cas, on va dire qu'on en voit 6, et ils forment des sortes d'arêtes de poissons. Ils sont posés comme ça, de biais, les uns à côté des autres. Il y a un registre au milieu qui ferait penser, par exemple, à la colonne vertébrale du poisson. Et de l'autre côté, ça repart de biais dans l'autre sens. Donc voilà, visuellement, on s'imagine les arêtes d'un poisson. Tout ça est bien construit avec du mortier, avec... alors, c'est pas tout à fait plat, mais c'est pas trop mal. Donc, là, vraiment, on a l'air d'avoir un sol de circulation qui pourrait être médiéval et qui pourrait être le sol de circulation de cette pièce du milieu du XIIIe siècle. Voilà, bon, alors là, comme on n'en voit pas beaucoup et qu'on n'a pas de mobilier associé, on ne peut malheureusement pas dire, c'est sûr, c'est du milieu du XIIIe siècle. Donc ça va rester une question peut-être en suspens, c'est pour ça qu'on va ouvrir un deuxième sondage plus loin dans la pièce, près d'une cloison du milieu du XIIIe siècle, que là on a daté par dendrochronologie. Si vous avez suivi, on avait présenté cette opération de dendrochronologie. Donc là, on va ouvrir un sondage à côté de cette cloison et essayer de voir si on retrouve le même sol avec des arêtes de poisson, les moellons en arêtes de poisson, de l'autre côté de la pièce. Là, ça nous confirmerait qu'on est peut-être sur le sol du milieu du XIIIe siècle. Là, on est à 30 cm sous le niveau actuel du sol en terre battue. Voilà, le mobilier qu'il y a à l'intérieur n'est pas très parlant. Voilà. Enfin, il est parlant dans le sens où il n'est pas ancien, mais il n'est pas... Alors, le mobilier, qu'est-ce que c'est ? Le mobilier, c'est tous les objets qu'on trouve lorsqu'on fouille. Donc, il y a les objets métalliques, potentiellement, les objets en verre, potentiellement, ce qu'on appelle la faune, c'est les ossements animaux, généralement des rebuts de consommation, pas juste des animaux qui sont venus mourir là, mais vraiment des rebuts de consommation, et la céramique. La céramique, donc, c'est les pots en terre cuite. La céramique est ce qu'on appelle un bon marqueur chronologique parce que il y a des changements de mode réguliers dans la forme des pots, des cruches, des assiettes qui nous permettent de dater assez précisément les fragments qu'on trouve. Alors, il y a aussi, par exemple, là, dans ce qu'on a trouvé, il y a du verre, il y a beaucoup de verre, une espèce de verre verdâtre. Voilà, on s'est interrogé, par exemple, sur la typologie de ce verre, qui n'est pas le verre Cronenbourg, hein, le verre bien flash. C'est un verre plus verdâtre, voilà. Et ce qui pourrait être intéressant et qui pourrait nous donner des informations, ça va être le col et la bouche de la bouteille, c'est une bouteille hein, visiblement, et il faudrait regarder précisément, on ne l'a pas encore fait en détail, si ce serait un verre qui a été soufflé et la bague aurait été posée de façon manuelle dans une manufacture, donc là on serait antérieur au milieu du 19e siècle, ou si c'est du verre moulé d'une production industrielle, donc là on serait postérieur au milieu du 19e siècle.
Alors vous avez trouvé tout ça hein, quand même, ce verre, ces céramiques et ces ossements dans donc ce petit carré de 80 cm carrés et sur 30 cm de profondeur qui comprend donc cette énorme pierre octogonale. Donc on se dit que potentiellement, on vous avez trouvé le sol dessous, donc le sol potentiellement aussi du XIIIe siècle. On se dit que si on fouillait la pièce entière, qui est quand même assez large, il y aurait matière.
Tout à fait. Il y aurait sans doute vraiment matière parce qu'il y a cette pièce, mais il y a aussi celle d'à côté qui pourrait être très intéressante. Là, on est freiné dans nos envies de s'étendre et de fouiller entièrement par le temps en fait qu'on a à consacrer à cette investigation parce que les sondages là qui avaient été demander, c'était pour vérifier si effectivement un contexte médiéval pouvait être conservé dans la maison. Donc là, c'était, on va dire, un sondage d'évaluation. La question qu'on se posait, c'était y a-t-il potentiellement un niveau de sol médiéval ? La réponse est probablement oui. Alors, comme j'ai pas de mobilier médiéval dans le sol conservé, je peux pas dire oui à 100%, mais là, on a envie de dire oui, mais le problème, c'est que avec les moyens qu'on a et les missions en fait aussi qu'on a, on ne peut pas entreprendre la fouille entière de la pièce. Ça, c'est hors de nos possibilités. C'est pas grave. C'est pas grave, on a déjà trouvé des informations. Ce qu'on espère, c'est que tout ça se fait grâce à la grande motivation des propriétaires de la maison pour en savoir plus sur l'histoire de leur maison. Ce qu'on espère, c'est que au cours de leurs travaux à venir dans ces deux pièces, puisqu'ils ont un projet de travaux, c'est pour ça aussi qu'ils nous ont autorisé à faire ces sondages, puisque on vient pas faire des trous dans leur sol sans leur autorisation. On espère que voilà, on continuera à venir visiter la maison et pouvoir suivre les travaux qui auront lieu et comme ça continuer à collecter des informations pendant les travaux. L'objectif n'est pas du tout de stopper les travaux. Malheureusement, nous, archéologues, on a cette mauvaise réputation d'être les empêcheurs de tourner en rond. Mais en fait, pas du tout, parce que pour nous, s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de découverte. Donc, au contraire, on aime autant qu'il y ait des travaux. Tout ce qu'on demande, c'est à pouvoir venir regarder, faire des photos, prendre quelques mesures, voir ce qui se passe, parce que nous, c'est comme ça qu'on collecte notre information.
Là, par exemple, ce qui a suscité la curiosité des propriétaires, c'est cette espèce de grosse pierre, un peu bizarre. Alors, vous l'avez déniché, cette pierre, vous l'avez détourée dans le sol, vous avez trouvé un superbe sol médiéval, donc probablement du 13e, en arête, on dirait un super joli carrelage. C'est vachement propre. Et avant de se demander comment vous avez creusé ce carré parfait, cette pierre, elle sert à quoi ?
Alors là, en l'état, c'est très très dur de dire à quoi elle a servi. La blague, en général, quand on sèche, on dit que c'est un aménagement rituel, parce que personne ne pourra nous dire le contraire, puisqu'on ne maîtrise pas tous les rituels anciens. Mais, blague à part, là, honnêtement, je sèche, je ne sais pas, il faut continuer à se gratter la tête et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été installée ici, à regarder ce qui se passe autour dans la pièce, est-ce qu'elle a servi à un poteau en bois pour soutenir le plafond, est-ce qu'elle a servi je sais pas, à poser une marmite parce qu'elle est toute cramée sur le dessus, est-ce que... Pour l'instant là, je sais pas, c'est à découvrir encore.
Léa, vous avez continué les fouilles donc dans ce sous-sol. Vous allez creuser à l'autre bout de la pièce. Est-ce qu'on peut vous demander en quelques mots qu'est-ce que vous utilisez comme matériel ? Alors j'imagine que c'est pas la grosse pioche là comme ça.
Alors on pourrait en effet utiliser la pioche. En fait, ça va dépendre du contexte. Là, comme j'ouvre des petits sondages qui sont pas très grands, j'ai pas la place pour me mouvoir avec des grands outils. Donc je prends des outils plus restreints.
Là, je vois plein de brosses. Ouais. Je vois un marteau aussi.
Oui, tout à fait. Alors, les marteaux, les massettes, tout ça, c'est en fait pour installer mes clous de coupe. Parce que pour enregistrer l'information, on fait des coupes, des plans et des relevés dont on pourra reparler. Pour creuser, j'utilise la truelle, qui n'est pas la truelle du maçon. Qui est sa cousine, on va dire, qui est la truelle de l'archéologue. Ce sont des truelles, des petites truelles triangulaires qui ont des bords très affûtés. On les affûte quasiment comme des couteaux. Et elles ont un bout légèrement arrondi. Et c'est ça qui va nous permettre de gratter la terre de manière quasi horizontale. Et comme elles ont une forme de flèche, je ne sais pas si... La flèche. On peut aussi entamer la terre en faisant un geste vertical comme avec un couteau de cuisine. Et c'est ça qui nous permet de creuser tout en maîtrisant notre force, de ne pas tout casser non plus. Hein, parce que l'archéologie, il faut quand même creuser, mais il ne faut pas tout casser. Donc, il faut réussir à suivre les niveaux. Pour suivre les niveaux, c'est en général des changements de texture qui nous permettent de se dire, tiens, là, il se passe autre chose. Et ça s'acquiert avec l'expérience. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, ce n'est pas toujours facile de déterminer quand on change de contexte, quoi, de niveau.
Et là, vous sortez la brosse.
Et là, après, on sort la brosse pour évacuer la terre et pour bien ensuite tout nettoyer, tout dégager pour avoir un beau niveau comme on a pu le voir dans notre premier sondage, parce que on est un petit peu maniaque, nous les archéologues, on aime bien quand c'est bien droit, bien propre. c'est un peu, voilà, ça c'est un côté un petit peu maniaque. On veut toujours des belles photos, bien avec un bel éclairage, que le niveau soit parfaitement propre. On a une phobie de la boulette de terre qui traîne au fond du sondage, à tel point que certains collègues fouillent avec des aspirateurs. Mais les collègues anthropologues fouillent avec des aspirateurs qui ont un système pour empêcher d'aspirer des trop petits morceaux, pour pas aspirer par exemple les phalanges de doigts ou des choses comme ça, pour avoir des très beaux niveaux bien dégagés. Hop. Là, on s'installe avec notre petit chapelet d'outils, la truelle bien sûr. On empoigne la pelle et là c'est parti.
Il y a quand même tout de suite des grosses pierres qui apparaissent. Hein.
Oui, tout à fait. On va aller voir ça de plus près. Donc il ne faut pas hésiter à bien bien dégager. Au début, en général, quand on débute en archéologie, on a toujours peur d'aller un petit peu trop loin, de casser quelque chose, mais en fait il faut bien 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 dégager parce que là par exemple on est passé d'un niveau tout noir très meuble là, très avec une terre qui s'enlève bien. Et là on voit que hop, on est en train d'arriver sur un niveau marron clair qui est assez meuble aussi, mais qui est vraiment différent et dans lequel il y a plein d'éclats de calcaire. Donc là on est vraiment passé à autre chose. C'est une autre couche stratigraphique. Et là par exemple, ça c'est du mobilier qui est dans la couche brun clair que je suis en train de dégager, apparaît une céramique qui est vraiment fichée dedans, donc elle appartient bien à cette phase brun clair avec les éclats de calcaire, un morceau de céramique où on voit apparaître un décor vert et un peu beige. Voilà, donc ça va être intéressant. Typiquement, ça va être un marqueur chronologique intéressant, parce qu'il y a du décor, le morceau est assez grand, on le voit bien. Donc là, je vais finir de dégager ce niveau, et ensuite, je le prélèverai, je le mets dans un petit sac, et on l'observera après nettoyage pour voir si il nous permettrait de dater cet aménagement, le niveau.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.